Vincent Stöcklin.
En ski alpin, Loïc Meyer a pris la deuxième place du slalom d'Alta Badia. Le skieur d'Eremance a terminé à 1/13 de l'intouchable norvégien Timon Hogan. Seulement 8e de la première manche, le Valaisan d'origine neuchâteloise est allé chercher son 9e podium en slalom pour confirmer son statut de meilleur suisse sur le virage court cette saison. Loïc Meyer poursuit sa série positive avec un nouveau top 5. Depuis son succès à Aspen en mars, le skieur d'Eremance a fait 4e, 3e, 5e, 3e et aujourd'hui 2e. La neige a fait son grand retour jusqu'en plaine. La tempête Éole a déposé près d'un mètre de neige fraîche en montagne. À basse altitude, une dizaine de centimètres ont recouvert plusieurs régions de Suisse romande. Une arrivée remarquée qui a provoqué pas mal de difficultés ce matin sur les routes et sur le rail. Cet après-midi, la ligne ferroviaire passant par le col de l'Oberalp est interrompue. Plus aucun train ne circule, annonce le Matterhorn Gotthardbahn. La fermeture a été décidée en raison d'un vent violent et du blocage d'un train en raison de la grande quantité de neige. Un train a été endommagé et doit être remis en état. Les passagers ont été évacués. Le marché de Noël de Montreux fête cette année ses 30 ans et pour célébrer ce cap, les organisateurs ont lancé Riviera Noël, une manifestation élargie associant ses voisines de Vevey et Villeneuve. La nouvelle formule a attiré plus d'un demi-million de visiteurs dans les trois lieux. Les résultats positifs de cette première édition encouragent une réflexion collective pour adapter et optimiser chaque site en 2025. Le retour enthousiaste des visiteurs confirme la pertinence de ce concept régional et l'engouement pour les animations proposées dans les trois localités, indiquent cet après-midi les organisateurs. En France, la présentation du 4e gouvernement en 2024 est toujours attendue ce soir. Ce sera l'épilogue d'une dizaine de jours de tractations entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Ce lundi, la France se recueille à la veille des fêtes de Noël pour Mayotte, ravagée par un cyclone. Aucune annonce n'est à attendre avant 18h ce lundi, a dit l'Élysée, laissant entrevoir la possibilité que le gouvernement soit connu en cette fin de journée. En Roumanie, l'ancien président du Sénat, Crin Antonescu, a été choisi par les forces pro-européennes pour les représenter comme candidat unique à la présidentielle face à l'extrême droite qui a le vent en poupe. Fin novembre, l'arrivée en tête au premier tour d'un candidat nationaliste inconnu, Calin Georgescu, balayant les partis établis à la grande surprise générale, avait provoqué un séisme politique. À 2 jours du second tour, la Cour constitutionnelle avait annulé l'ensemble du processus, étayant ses accusations sur le rôle de TikTok durant la campagne avec la Russie dans le viseur. Les autorités allemandes enquêtent sur d'éventuelles failles de sécurité après l'attentat à la voiture Bélier commis vendredi sur le marché de Noël de Magdebourg qui a fait 5 morts et des dizaines de blessés. Un attentat sur fond de débat sur l'immigration à l'approche d'élections législatives anticipées. Le mobile du suspect, un psychiatre saoudien de 50 ans qui se revendique comme un apostat et affiche une sympathie pour le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, reste inconnu. Encore quelques chutes de neige cet après-midi en Bas-Valais avec de la pluie en dessous de 500 mètres. La neige continuera en montagne, mais de belles éclaircies se développent au pied du Jura et dans la vallée du Rhône. 3 degrés en plaine, moins 8 à 2000 mètres. Encore très nuageux demain avec les derniers flocons le long des Préalpes.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Bonjour les amis, c'est Juliette Granier
et Sidney Fierrot.
Cette année, pour la veillée de Noël, Espace 2 vous amène dans un lieu mythique.
C'est à l'abbaye de Saint-Maurice que ça se passe, fondée en 515 par le roi Burgonde Saint-Sigismond. Dans ce lieu chargé d'histoire, on écoutera les voix célestes avec l'ensemble vocal diaphane, des airs traditionnels ou britanniques chaleureux avec l'ensemble vocal de Saint-Maurice.
Et oui Sidney, et l'orgue aussi qui nous transportera dans ses rugissements et la chanteuse Elina Douni qui nous plongera dans l'esprit archaïque et magique de Noël, avec ses compos de style traditionnel, alors ses musiques, rires,
quiz et frissons. Vivez avec nous la veillée de Noël sur RTS Espace 2 et sur l'application Play RTS.
À bientôt les amis.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Et à la régie, Marie-Claude Cudry. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Au cœur de l'hiver, quand il neige dehors et que le froid vous incite à vous réfugier au coin du feu, rien de tel qu'un conte de Noël pour agrémenter la soirée. Alors installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, un chocolat chaud et ouvrez grand vos oreilles. L'Oreille d'abord vous propose aujourd'hui de découvrir 8 contes de Noël racontés en musique. Et voici pour vous mettre dans l'ambiance le plus classique des contes de Noël, Casse-Noisette et le roi des souris. Ce conte, imaginé par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816, a enchanté de nombreuses générations, tandis que sa mise en musique par Tchaïkovski en a fait un incontournable des fêtes. Réveillez vos souvenirs en retrouvant la joie de la petite Clara devant la magie que suscite son jouet préféré, son vaillant Casse-Noisette, parti combattre le diabolique roi des souris. En voici l'ouverture du ballet. Gustavo Dudamel et l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles étaient les interprètes de cette ouverture miniature tirée du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Casse-Noisette, c'est un grand classique, un incontournable des fêtes qui nous plonge dans la féerie de Noël. Tchaïkovski adorait les enfants. Après le désastre de son mariage irréfléchi, il s'est réfugié dans le giron familial à Kamenka, près de Kiev, où il s'amusait à composer de joyeux divertissements musicaux destinés à égayer ses jeunes frères et surtout les enfants de sa sœur aînée. Après Casse-Noisette, il s'attelle à l'écriture d'une musique de scène destinée à accompagner une pièce de théâtre d'Alexandre Ostrovski, une pièce intitulée Snegurochka, flocon de neige ou la fille des neiges. Dans le folklore russe, Snegurochka est la petite fille de Ded Moroz, le grand-père Gel, l'équivalent russe du Père Noël, et de la fée du printemps. L'histoire est la suivante. Un paysan et sa femme se désolent de ne pas avoir d'enfant. Alors un jour d'hiver, pour se distraire, ils décident de s'en fabriquer un avec de la neige. Par un quelconque tour de magie, celui-ci prend vie et devient une belle petite fille qui grandit rapidement tout en gardant un teint pâle comme la neige. On l'appelle Snegurochka. Lorsque le printemps arrive, la jeune fille manifeste des signes de langueur. Les autres jeunes filles du village l'invitent à venir jouer avec elle, et sa mère adoptive la laisse partir à regret. Les filles s'amusent, chantent et dansent, et finissent par entraîner Snegurochka à sauter par-dessus un feu de joie. Mauvaise idée. Flocon de neige pousse un cri, ses amis se retournent et découvrent que leur compagne a disparu. Elle la cherche partout, sans succès. Snegurochka a fondu, il n'en est resté qu'un flocon de brume flottant dans l'air. Je propose ici d'écouter le mélodrame que Tchaïkovski a composé pour accompagner cette pièce. Mélodrama, c'est le titre que porte cette pièce pour orchestre tirée de la musique de scène que Piotr Ilitch Tchaïkovski a composée pour accompagner la pièce d'Alexandre Ostrovski, Snegurochka, un titre qu'on traduit par Flocon de neige ou La fille des neiges. Alexander Vedernikov dirigeait l'Orchestre national russe. Nikolaï Rimsky-Korsakov s'est lui aussi laissé inspirer par ce conte de Noël. Il en a tiré un opéra. Tchaïkovski et Rimsky-Korsakov avaient d'ailleurs une passion commune pour l'univers des contes de fées. Ils se sont souvent inspirés des mêmes récits. Hormis Snegurochka, tous deux se sont intéressés à La nuit de Noël, une nouvelle de l'écrivain russe Nikolaï Gogol. Et voici ce que Rimsky-Korsakov lui-même en dit dans les chroniques de sa vie musicale. J'ai toujours eu envie d'écrire un opéra. La mort de Tchaïkovski libérait pour ainsi dire le sujet de la nuit de Noël qui m'avait toujours attiré. J'avais toujours trouvé faible l'opéra de Tchaïkovski, en dépit de nombreuses belles pages musicales, et totalement inepte le livret de Polonsky. Du vivant de Tchaïkovski, je n'aurais pas pu reprendre ce sujet sans lui causer de la peine. À présent, je suis libre en ce sens, et quant au droit moral de travailler sur ce thème, je l'ai toujours eu. Vers le printemps 1894, je décidai définitivement d'écrire La nuit de Noël et je me mis à rédiger le livret moi-même en suivant fidèlement Gogol. Mon opéra est comme un chant de Noël qui prend vie. Cette nuit de Noël est assez surprenante. Pas question ici de féerie façon casse-noisette. Nous voici plongés dans la vie quotidienne d'un village d'Ukraine. Le maire et le sacristain ont la mauvaise idée de courtiser la même femme, une coquette qui se trouve belle en se regardant dans le miroir, et dont la mère a pour seul ami le diable en personne. Dans cet opéra, Nikolaï Rimsky-Korsakov fait largement recours aux matériaux populaires. Il fait entendre la voix des koliatki, c'est-à-dire les Noëls traditionnels en Ukraine. Par la suite, il en a tiré une suite d'orchestre, suite qui résume parfaitement l'ambiance de l'opéra. Je propose d'en découvrir quatre mouvements, successivement « Jeu et danse des étoiles »,« La procession de la comète »,« Tchardas » ou « La pluie des étoiles filantes » et « La koliatka du diable ».
Thank you.
La nuit de Noël, c'est une suite pour orchestre tirée de l'opéra éponyme de Nikolaï Rimsky-Korsakov, opéra qui s'inspire d'une nouvelle de Nikolaï Gogol. Loris Tchèknavorian dirigeait l'orchestre philharmonique d'Arménie. Changement de décor et d'atmosphère. Après les pays slaves, nous mettons maintenant le cap vers le Danemark pour écouter un autre grand classique de la littérature de Noël, La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Le maître des contes a marqué l'hiver 1845 en publiant cette histoire émouvante qui s'est rapidement imposée parmi les classiques du genre. La veille du nouvel an, alors qu'il fait un froid glacial, une petite fille miséreuse arpente les rues enneigées et propose des allumettes aux passants qui restent indifférents à sa détresse. Frigorifiée, elle craque ses allumettes l'une après l'autre pour se réchauffer. Elle découvre dans la maigre flamme de ses allumettes tous ses rêves de Noël, un sapin, des cadeaux, un repas de fête, puis sa grand-mère adorée qui vient la chercher. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie dans la rue, le sourire aux lèvres. Ce conte si émouvant a inspiré le compositeur américain David Lang, qui en a tiré une cantate pour chœur de chambre et quatre solistes, qu'il a intitulée « The Little Match Girl Passion », la passion de la petite fille aux allumettes. Le compositeur dit avoir été influencé dans l'écriture de cette pièce par la Passion selon saint Matthieu de Bach. L'œuvre lui a valu le prix Pulitzer en 2008, tandis que ses premiers interprètes, The Theatre of Voices, emmenés par Paul Hillier, ont remporté un Grammy Awards en 2010. Dans la notice qui accompagne la création de l'œuvre, voici ce qu'écrit David Lang à propos de sa passion. La force de l'histoire ne réside pas dans son intrigue, mais dans le fait que l'horreur et la beauté sont constamment imprégnées de leur contraire. C'est cela qui m'a plu dans ce conte d'Andersen. Le présent amer de la jeune fille est lié à la douceur de ses souvenirs passés. Sa pauvreté est toujours imprégnée de son espoir. Il existe une sorte d'équilibre naïf entre la souffrance et l'espoir. C'est David Lang lui-même qui a rédigé le texte de sa passion en s'appuyant sur le récit d'Andersen, mais aussi sur le livret de Picander qui a écrit le texte de la Saint Matthieu de Bach et l'évangile de Saint Matthieu. Le compositeur précise que sa cantate porte le titre de « La passion de la petite fille aux allumettes » parce qu'il a donné au conte d'Andersen la structure de la passion selon saint Matthieu de Bach, en intercalant le récit d'Andersen avec des versions de la foule et des réponses des personnages de la passion de Bach. Le mot « passion », précise-t-il encore, vient du latin et signifie « souffrance ». Et de conclure, il n'y a pas de Bach dans ma pièce, ni des Jésus, mais la souffrance de la petite fille aux allumettes a été substituée à celle de Jésus et élevant, je l'espère, son chagrin à un niveau supérieur.
Oh. With bare head and naked feet, roam through the streets. It is true, she had on a pair of slippers when she left home, but they were not of much use. They were very large, so large indeed, that they had belonged to her mother, and the poor little creature had lost them in running across the street to avoid two carriages that were rolling along at a terrible rate. One of the slippers she could not find, and a boy seized upon the other and ran away with it, saying that he could use it as a cradle when he had children of his own. So the little girl went on with her little naked feet, which were quite red and blue with the cold. So the little girl went on with her little naked feet, which were quite red and blue with the cold.
Hanging clothes on her shoulders, when she was Patience.
God have mercy, 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 God have mercy,
Quelques pages de La Passion de la petite fille aux allumettes du compositeur américain David Lang, une œuvre qui a valu à son compositeur en 2008 le prix Pulitzer de la musique. 10 ans plus tard, on pouvait lire dans les colonnes du Guardian que The Little Match Girl Passion compte parmi les plus grands chefs-d'œuvre de musique des années 2000 et que c'est sans doute l'une des œuvres vocales les plus originales de ces dernières années, un classique du 21e siècle. La version que nous écoutions était celle des créateurs de la partition, The Theatre of Voices, dirigé par Paul Hillier. Le mélange de tragédie et de comédie qui caractérise le conte d'Andersen est également une des marques de fabrique du grand Shakespeare, à qui l'on doit un autre grand classique de Noël, une pièce intitulée « Un conte d'hiver », « A Winter Tale ». Léonte, roi de Sicile, et Polixène, roi de Bohême, ont été élevés ensemble comme deux frères. À l'âge adulte, ils respectent l'éthique de leur rang royal. Alors que Polixène est en visite officielle en Sicile, Léonte s'est pris d'une folie passionnelle et destructrice, la jalousie. Il soupçonne sa femme, Hermione, de le tromper avec son amie et est persuadé que l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien, mais le fruit de sa trahison. Aussi l'avait-il enfermé et cherche-t-il à empoisonner Polixène, qui parvient à s'enfuir avec la complicité d'un serviteur. En prison, Hermione accouche de la petite Perdita, qui sur ordre du roi doit être abandonnée dans quelque lointaine contrée. À peine Antigonus a-t-il déposé l'enfant sur une berge qu'il est dévoré par un ours. La petite est recueillie par un vieux berger. Pendant ce temps, l'oracle de Delphes assure Léonte de l'innocence d'Hermione. Trop tard, car celle-ci est tenue pour morte. 16 ans sont passés et Perdita est devenue une bergère d'une grande beauté, que le fils du roi du pays est sur le point d'épouser, tandis que la veuve d'Antigone, Paulina, présente à son roi une statue d'Hermione. Celui-ci fond en larmes. Dès lors, la statue s'anime et Hermione, jusque-là cachée par Paulina, ressuscite. Le compositeur suédois Lars-Erik Larsson en a tiré une suite pour orchestre, à laquelle il a donné le titre d'un conte d'hiver, 4 esquisses à la pièce de Shakespeare. C'est son opus 18. L'œuvre a été composée entre 1937 et 1938, dans un style tout à fait romantique. Les 4 esquisses sont intitulées respectivement sicilienne, intermezzo, pastorale et épilogue.
Thank you. Thank you.